avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, les défis sécuritaires maliens, la campagne présidentielle au Niger, le Tchad face aux problèmes des réfugiés, les difficultés des personnes âgées en Guinée et enfin rencontre avec Samba Batili, partenaire du musicien Ekon pour son projet d'électrification en Afrique. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Nous ouvrons l'émission par le Mali et ses défis sécuritaires. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile était à Mopti le week-end dernier. Venu remonter le moral des troupes, le colonel-major Salif Traoré a aussi évoqué les défis sécuritaires qui s'imposent dans la région de Mopti. Le point avec notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
Après Tombouctou et Gao, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile s'est rendu à Mopti ce week-end. Objectif, prendre contact avec le commandement du secteur 4 de la 6e région militaire du Mali, puis visiter les services relevants de son département. Le colonel-major Salif Traoré est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
Il s'agissait essentiellement de venir prendre contact, rassurer les troupes, les féliciter pour ce qu'elles font et les encourager à continuer davantage.
Depuis la récupération des régions nord et une partie du centre du Mali aux mains des groupes armés et des djihadistes, la région de Mopti vit dans une insécurité presque totale et les hautes autorités en sont conscientes. Colonel-major Salif Traoré.
Nous avons déjà eu la visite de tous les élus, aussi bien les députés que les maires de la région qui se sont déplacés jusqu'à Bamako pour rencontrer le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense. Nous avons reçu des écrits également du gouverneur de la région. C'est pourquoi il y a une série d'opérations qui sont en cours déjà. Et des dispositions sont en cours pour créer de nouveaux postes de sécurité et de nouvelles implantations d'unités pour marquer le terrain. Des commandes d'équipements et d'armements sont en cours qui vont bientôt arriver et nous allons renforcer le potentiel des unités qui sont ici sur place. Et il y a d'autres projets de brigades fluviales qui vont arriver ici avec des vedettes parce que nous savons également que l'eau joue un grand rôle ici parce que nous avons beaucoup de zones qui sont difficilement accessibles.
Avec ces hommes, le premier responsable de la sécurité des Maliens est très clair. Les mérites vont être récompensés et à temps et les fautes seront sanctionnées comme il se doit. Mamoudou Bokoum Mopti pour VOA Africa.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM. Au Niger, ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle, couplée aux législatives du 21 février prochain. Fait marquant, un des 15 candidats, Ama Amadou, est toujours emprisonné pour une affaire de trafic présumé de bébés. C'est par ailleurs l'incertitude sur le vote de près de 2 millions de Nigériens inscrits sur les listes électorales, mais ne disposant pas de pièces d'identité. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est l'une des conclusions de l'audit du fichier électoral conduit par l'Organisation internationale de la francophonie. Près de 2 des plus de 7 millions d'électeurs recensés ne disposent pas de pièces d'état civil. S'ils doivent voter, ce sera alors comme au recensement, 2 personnes doivent témoigner. Or, la loi électorale nigérienne n'a pas prévu le vote par témoignage. Face à ce risque de voir un pourcentage aussi important d'électeurs mis sur le carreau, la question a été posée à la dernière réunion du Conseil national de dialogue politique et les positions sont tranchées entre les deux camps. Ibrahim Tamponé du MNS de Nassara, le principal parti de l'opposition.
La loi ne l'a pas prévu. Et puisque la loi ne l'a pas prévu, nous pensons qu'il faut respecter la loi. Je ne sais pas si la CENI peut modifier la loi. Il appartient à la CENI d'examiner la situation et de prendre la position qu'elle juge être la meilleure pour le pays. Mais nous insistons pour le respect de la loi.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire harakiri?
Mais nous en sommes bien conscients. On assume.
À la majorité, l'on avance le principe du droit constitutionnel qu'a chaque Nigérien de pouvoir voter. Boubacar Sabo, membre du comité exécutif national du PNDS Tareya, le parti au pouvoir.
C'est un droit constitutionnel le fait de voter, donc les dispositions réglementaires ne peuvent pas être au-dessus de la constitution. C'est une omission au niveau de la loi. Les juristes appellent ça même une erreur matérielle. L'opposition, en réalité, ils sont pour que les 1,2 million votent, mais ils veulent faire de la surenchère de la politique et puis pouvoir remettre en cause les résultats.
Le président du Conseil national du dialogue politique, le premier ministre chef du gouvernement, a renvoyé la question à la Commission électorale nationale indépendante. À 3 semaines de l'élection, la décision de cette dernière est encore attendue. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Partons maintenant au Tchad pour parler de la situation des réfugiés. Le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés au Tchad a tenu une conférence de presse le week-end dernier à N'Djamena. Bilan et perspectives en matière de protection et assistance aux Soudanais, Centrafricains et Nigérians étaient au centre des débats. Le point avec André Komadjingar.
Le Tchad est le 4e pays en Afrique à accueillir plus de réfugiés sur son sol, selon le représentant du SR au Tchad, Josué Antonio Kanandola. Pour lui, plus de 370 000 réfugiés repartis en 4 groupes vivent sur le territoire tchadien. Pour mieux les prendre en charge, le représentant du ICR informe que son institution les classe en 2 catégories en tenant compte de leur situation. Il s'agit des réfugiés soudanais et centrafricains qui ont plus ou moins les mêmes problèmes.
Nous avons défini pour ces 2 groupes de réfugiés, première chose, c'est la protection effectivement que nous et l'État tchadien donnons à ces réfugiés. La deuxième chose, c'est l'assistance, c'est leur donner tout ce dont ils ont besoin pour avoir une bonne santé.
Ensuite, il y a les réfugiés urbains qui vivent en N'Djamena et le groupe récent de réfugiés nigériens que le ICR assiste de façon particulière compte tenu de leur situation délicate.
Dans la situation nigériane, il y a un gros problème de sécurité dans la zone du lac. Donc aussi, la protection représente pour nous non seulement la protection légale, mais aussi la protection physique dans la zone du lac. Et puis pour les réfugiés urbains, c'est essayer de voir quels sont les services qu'on peut donner. On ne peut pas assister aux réfugiés urbains en leur donnant l'alimentation, etc., etc. Sinon, ça va créer un camp en ville. Donc, tout ce qu'on fait, on se concentre sur la santé et l'éducation.
L'assistance et protection, oui. Mais José Antonio Kanandola estime qu'il faut explorer d'autres pistes pour les rendre libres et autonomes.
Nous avons la tendance d'assister les réfugiés à l'infini, mais à un moment donné, la dépendance de l'assistance humanitaire fragilise l'être humain. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement et les autres organisations pour essayer de donner aux réfugiés les capacités d'autosuffisance pour redonner la dignité aux réfugiés. Et pour cela, il a besoin de la liberté de mouvement. On est en train de discuter avec le gouvernement pourquoi un être humain doit être gardé dans un camp. C'est historique, mais le camp limite la capacité de l'être humain.
Dans la perspective 2016, des discussions sont déjà engagées avec les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, afin de relever ce défi, rassure le représentant du SR au Tchad. Il invite par ailleurs les Tchadiens à considérer ces réfugiés comme des êtres humains qui sont dans une situation difficile et non les stigmatiser. André Kodumadjingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Santé en Guinée, vivre au-delà de 60 ans est très souvent synonyme de marginalisation et de vulnérabilité. Les personnes âgées sont généralement à la charge de leur famille, mais certaines sont livrées à elles-mêmes et sont obligées d'avoir une activité génératrice de revenus. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Être personne âgée en Guinée rime avec inquiétude car cette couche sociale connaît une dégradation progressive de sa condition de vie. Dans la capitale, elles sont nombreuses à se plaindre. Certaines s'en sortent grâce au soutien de leurs enfants.
Nous avons été députés de la première législature. On a commencé à nous payer une pension. Puis après, paf, plus de pension.
À l'heure là, je ne travaille pas parce que j'ai eu le mot dédié. Ils viennent d'opérer. J'ai mes enfants qui sont en Europe, qu'on m'envoie des dépenses. J'ai mes concessions encore.
Moi, je ne fais absolument rien. Je suis à la maison. Moi aussi, j'ai été retraitée. J'ai ma retraite de la banque, mais toujours, c'est minable, c'est petit. Parce que si tu ne gagnes pas un sac de riz chaque fin du mois, ça veut dire que tu n'as rien gagné. On souhaite que l'État, le gouvernement guinéen, nous vienne en aide à l'heure-là.
L'État au secours, même son de cloche sur presque toutes les personnes du troisième âge. Un appel qui, pour certains, permettra de rehausser la pension jugée insignifiante. Moins de $30 dans certains cas, et non sans oublier le retard dans le paiement.
J'ai été témoin d'un cas, une femme qui venait de Koya, qui avait comme pension moins de 200 000 francs. Le transport aller-retour, il avait tellement marché qu'il était obligé d'emprunter de l'argent pour payer son transport.
Aboubakar Sompare, qui vient de témoigner, fut président de l'Assemblée nationale de Guinée. Actuellement, il est le président de l'Association des retraités de Guinée. Son ambition, améliorer les conditions de vie des personnes âgées.
Notre souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'État améliore les pensions des retraités proportionnellement au salaire qu'on paye aux travailleurs et que l'on crée des avantages pour les personnes de troisième âge, tels que la gratuité des transports publics, la gratuité de certains soins. D'une manière générale, il y a des maladies qui devraient être prises en charge par l'État, telles que le diabète.
En Guinée, tout individu âgé de 60 ans ou plus est considéré comme une personne âgée. En 2002, ils étaient un demi-million, soit 6% de la population guinéenne. Alpha Omar a 62 ans, chauffeur de taxi. Il dit ne pas compter sur l'apport du gouvernement.
Nous, on ne compte pas sur l'État guinéen. De tout. Ils ne pourront pas nous aider. Parce qu'on voit notre enfant finir d'étudier, ils n'ont pas de boulot. Ce n'est pas nous les vieux qui vont avoir quelque chose pour attendre pour l'État.
À Conakry, les personnes âgées n'ont pas d'espace de repos, pas de loisirs, pas de moyens de transport dédiés. Samedi, le gouvernement a créé la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Ces deux institutions sont destinées à satisfaire les demandes d'accès à des services sociaux, demandes exprimées par, entre autres, les personnes du troisième âge. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Culture un peu particulière aujourd'hui puisque nous allons évoquer le musicien Ekon, mais non pour ses morceaux, mais pour ses projets philanthropiques. Samba Batili, pionnier dans les secteurs des énergies propres et des solutions de technologie solaire, était à Washington ces derniers jours pour promouvoir le Ekon Lighting Africa, une initiative d'électrification de l'Afrique. L'homme d'affaires malien est l'un des trois partenaires de cette entreprise, aux côtés d'Ekon, la star de la musique sénégalo-américaine. Lors d'un entretien dans les studios de la VOA, il a partagé sa vision pour l'économie du continent avec Tatiana Mosso.
Facile à mettre en place, oui. Le coût, on peut dire que en termes de CAPEX, c'est-à-dire investissement, c'est lourd, mais en termes d'OPEX, c'est-à-dire tout ce qui est l'opération, c'est moins coûteux.
Alors vous êtes un des acteurs clés de la création de sociétés et de développement durable. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui on doit investir dans ce domaine-là?
Je pense réellement que c'est le secteur qui peut changer la donne. Parce que si vous prenez l'Afrique aujourd'hui, on parle de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Aujourd'hui, pour pouvoir réduire cette fracture énergétique, l'énergie solaire est une des solutions qui est rapide et qui... De plus en plus, les coûts sont en train de diminuer. Si vous prenez la tendance ces 10 dernières années, le coût de l'énergie solaire, c'est-à-dire le watt crête, est parti de $8 à moins d'un dollar, c'est-à-dire à la moitié même d'un dollar aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que le continent ne soit pas capable, avec ses ressources naturelles, prendre des initiatives plus tôt?
Moi, je pense que le problème qu'on a en Afrique, c'est un problème d'unité. C'est-à-dire, vous parlez d'Inga. Inga, ça a toujours été là. Inga, aujourd'hui, on sait que c'est un barrage qui peut fournir de l'énergie à peut-être toute la sous-région du SADC. Mais pour qu'on arrive à mettre en place Inga, il faut qu'il y ait de la coopération entre les pays. Le Congo, si on met en place Inga aujourd'hui, le Congo seul ne peut pas utiliser l'énergie produite par Inga. Il y a l'Afrique du Sud, il y a tous les pays de la région. Moi, je pense que réellement, le problème de l'Afrique, c'est qu'on puisse réfléchir en termes de projets à l'échelle du continent.
Alors justement, l'Afrique représente un grand marché, mais on sait aussi, et il y a une dernière étude de Transparency International qui vient de paraître, l'Afrique connaît aussi un fléau, c'est la corruption.
Bon, le fléau de la corruption, moi je pense que c'est lié d'abord à la pauvreté. Parce que prenez un policier qui gagne 100 dollars, il doit nourrir sa famille, il doit envoyer les enfants à l'école, c'est difficile.
Mais les contrats ne se jouent pas au niveau d'un policier.
Je parle de la corruption, d'abord ça commence là-bas. Moi, je pense que pour endiguer la corruption, il faut combattre ça à la racine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée de la richesse.
En ce début d'année 2016, quel est votre souhait pour le continent?
Que les Africains prennent conscience qu'on va travailler avec tout le monde, mais c'est d'abord nous qui devons jeter les bases du développement.
Samba Batili, partenaire du musicien Econ pour son projet d'électrification de l'Afrique.
Life goes on. I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.
I'm sorry for the times that I left you home. I was on the road and you...
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Josèle Morissin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel, sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec Econ, bien sûr, et son morceau « Blame It On Me ». Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Go and sell